Lyon Demain, le média influenceur d'avenir.
La demande de logements sociaux a connu une croissance exponentielle au cours de ces dernières années, une augmentation de plus de 20% sur l'aire urbaine lyonnaise. Alliade Habitat affiche un total de 55 000 logements et plus de 130 000 locataires. La filiale régionale d'Action Logement a obtenu en 2023 1900 nouveaux agréments, dont 687 pour la seule métropole de Lyon, et livré 1360 logements. Le bailleur compte bien poursuivre ses efforts en 2024. Alliade pourrait passer le cap des 60 000 logements dans les prochaines années. Un vaste plan de décarbonation et économie d'énergie a aussi été lancé l'an dernier et Alliade s'engage à accélérer la démarche de décarbonation en 2024. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Sylvain Giraud. Il est directeur maîtrise d'ouvrage et valorisation du patrimoine chez Alliade Habitat.
Actuellement, on a un bilan carbone pour l'année 2023 qui est à 250 000 tonnes. Donc 250 000 tonnes, c'est à peu près l'équivalent de 33 000 Français. Voilà, donc ça c'est notre bilan et nos objectifs, nos ambitions. C'est de diminuer ce bilan de moitié dans 10 ans, donc en 2034 d'avoir diminué de moitié, et puis d'être à la neutralité carbone, on va dire 2045, entre 2045 et 2050. On s'inscrit vraiment dans la stratégie nationale bas carbone qui vise pour la France la neutralité à 2050, un petit peu plus ambitieuse dans le cadre du groupe Action Logement qui souhaite anticiper ces échéances. On s'est mis dans cette logique. Ce bilan, il se répartit entre ce qu'on produit aujourd'hui en construction neuve, qui représente à peu près 30% de notre bilan, les opérations de réhabilitation qu'on réalise, là aussi 30%, et puis surtout, la part majeure de notre bilan, c'est 40% en exploitation. Donc en exploitation, c'est les résidences qu'on a déjà et dans lesquelles on a notamment des consommations de fluides et d'énergie qui font ce bilan sur lequel il faut qu'on travaille. Donc les deux sujets majeurs, c'est les matériaux sur la construction neuve et réhabilitation et l'énergie, puisque l'énergie, il faut aujourd'hui qu'on la décarbone de manière très conséquente, et c'est là-dessus qu'on travaille principalement.
Comment se passe un chantier de réhabilitation ?
Alors un chantier de réhabilitation, c'est d'abord une phase de diagnostic dans laquelle on envoie nos équipes avec des prestataires spécialisés pour justement partir d'une situation existante, donc analyse notamment du DPE qui est maintenant la référence pour tout le monde de la réhabilitation. Donc on étudie ça pour se dire en termes de rénovation énergétique qu'est-ce qu'il va falloir faire sur ces bâtiments, et ensuite on complète par ce qui est de la mise aux normes. Donc pendant qu'on est là pour travailler sur la thermique et l'isolation, on va aussi travailler sur reprendre les installations électriques, voilà, les installations gaz, mise aux normes. Deuxième aspect. Et puis le troisième aspect qui est l'embellissement, travail à la fois sur les parties communes et aussi dans les logements, sur les pièces humides, là dans une logique de confort pour nos locataires et aussi de remettre au goût du jour des logements ou sur des résidences où on pourrait avoir un petit phénomène de vacances lié à ces points-là. Donc vraiment une logique de priorité. Un, priorité énergétique, baisse des consommations. Deux, mise aux normes qui est indispensable forcément. Et trois, l'attractivité des logements et des parties communes. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est la biodiversité. Donc là, on travaille aussi sur les espaces extérieurs des résidences. On essaye de systématiser en amont de nos opérations de réhabilitation une étude de biodiversité, un diagnostic de biodiversité, faune-flore, et aussi appropriation par nos locataires de la biodiversité concrète, qu'est-ce que c'est. Et les préconisations de ce diagnostic, on les intègre ensuite dans le cahier des charges de la réhabilitation. Donc ça, c'est le petit plus, mais qui est aussi très important, puisqu'il s'inscrit en lien avec la démarche bas carbone sur la préservation de l'environnement.
Si la réhabilitation, elle se pratique en site occupé ?
Elle se pratique majoritairement en site occupé et on a une mécanique qui est assez bien rodée avec notamment, quand il y en a besoin, des logements de courtoisie. Donc en fait, des logements de courtoisie, c'est quelques logements qu'on garde vides pendant le temps de la réhabilitation et dans lesquels nos locataires peuvent pendant la journée aller faire leur vie quotidienne dans ces logements pendant qu'on travaille chez eux. Et donc c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps et qui nous permet de ne pas avoir à déménager la totalité d'une allée. Cette logique-là, on la garde dans des réhabilitations vraiment extrêmement lourdes où on referait la totalité du logement, où là, on travaille plutôt par pile avec des relogements tiroirs et puis on fait aller par aller. Mais c'est dans très très peu de nos réhabilitations. On essaye plutôt de travailler en logement occupé.
On parle beaucoup de l'upcycling, du réemploi en français. Oui. Est-ce que chez vous, ça fonctionne ?
Ouais, le réemploi, c'est un sujet majeur. On vient de faire une première expérimentation de réemploi où on a utilisé des menuiseries issues d'une opération de réhabilitation qui ont été démontées soigneusement, mises sur des camions et qui sont parties via une ONG avec qui on était en partenariat, qui sont parties en Ukraine pour aider à la reconstruction, notamment pour les particuliers ukrainiens qui subissent la guerre actuellement. Donc ça, c'est une première mise en œuvre concrète de l'upcycling. Mais notre volonté aujourd'hui, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche de réemploi. C'est au cœur de notre projet d'entreprise. On a un des axes de notre projet d'entreprise qui est calé sur justement réemploi, recyclage, réutilisation, avec une volonté de monter en gamme là-dessus, avec toutes les contraintes que ça représente, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de partenaires, de maîtres d'ouvrage qui sont prêts à fournir des matériaux pour qu'ils soient réutilisés. Ce qu'il y a beaucoup moins, c'est des maîtres d'ouvrage qui sont prêts à réutiliser des matériaux issus du réemploi. Et donc, on travaille sur ces sujets-là avec des partenaires spécialisés, assistance à maîtrise d'ouvrage, mais aussi potentiels utilisateurs finaux et filières de reconditionnement et de stockage au milieu. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est créer un écosystème autour du sujet du réemploi. Cet écosystème, il devrait nous permettre à terme, c'est notre volonté, d'être vraiment un utilisateur de matériaux issus du réemploi et potentiellement, si on y arrive, de faire quelque chose de très vertueux qui consisterait à dire qu'on produit des matériaux démontés sur nos réhabilitations et on les réutilise dans nos opérations neuves. Alors ça, c'est une vision à quelques années parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout possible. Il y a des problématiques d'assurance, il y a des tas de choses. Mais on se l'est mis comme je sais pas si c'est un rêve, mais voilà, comme vraiment volonté de faire quelque chose de très performant dans ce domaine-là et sans forcément fixer une échéance, mais d'être aux alentours de 20% de réemploi sur la totalité des opérations qu'on fait en réhabilitation, ce qui est un chiffre qui peut paraître assez faible comme ça, mais qui par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, qui est plutôt de l'ordre de 1 ou 2%, qui est déjà une multiplication de cette démarche et qui nous semble vraiment une vraie solution à la fois en termes d'impact carbone, mais aussi de logique vertueuse.
Pour conclure, un exemple peut-être de programme justement un petit peu atypique ou vertueux dans l'agglomération qu'on va avoir sortir.
Alors deux opérations, une opération qu'on fait en construction neuve à Mézieux, qui est une opération donc de 60 logements dans lequel on est en train de tester du béton ultra bas carbone. Donc là on a 4 bâtiments et pour tester, parce qu'on est toujours dans une logique de on teste d'abord une innovation avant de la déployer à grande échelle. Donc sur cette opération-là, on a un bâtiment qui est en béton classique, on a un bâtiment qui est en bas carbone, donc bas carbone qui se fait déjà beaucoup sur le marché, et puis on en a un qui est en ultra bas carbone, c'est une première nationale, pour l'instant ça a été fait par personne, c'est un matériau qui vient de sortir, et on divise quasiment par 4 l'impact carbone du béton sur cette opération, donc c'est très intéressant, pas uniquement pour ce dossier-là, mais aussi dans une projection sur l'avenir, puisqu'on sait que la réalité aujourd'hui sur les opérations de construction neuve, c'est qu'on ne pourra pas se passer totalement du béton, donc même si on a une logique d'aller chercher des matériaux biosourcés, du bois, de la paille, de ces choses-là, de la terre crue peut-être. Il y aura forcément dans les opérations une part qui sera en béton, notamment les sous-sols qu'on ne fera jamais en bois, hein, bien évidemment. Et donc, si on arrive à trouver une solution pertinente, y compris pour cette partie-là, c'est pour nous un vrai progrès et une vraie approche environnementale. Donc ça, c'est sur le neuf, sachant que sur cette opération, on travaille aussi sur l'énergie puisqu'on a une chaufferie bois, donc qui va là aussi nous permettre d'atténuer l'impact carbone. En réhabilitation, notre opération pilote qui est en cours de réalisation, elle est à Saint-Priest Petit Bois, où on est parti d'une résidence des années 70 avec toutes les caractéristiques et notamment un DPE qui n'était pas bon, hein, en classe E, et avec des consommations électriques importantes, et où on teste la totalité des solutions qui sont disponibles, donc une surisolation de ces bâtiments en laine de bois, toujours la logique de dire on travaille l'énergie en surisolant et on travaille le matériau en faisant de la laine de bois. On fait du triple vitrage pour travailler aussi sur tout ce qui est menuiserie extérieure, et donc ça nous permet de diminuer de quasiment entre 50 et 70% les consommations d'énergie, donc on consomme beaucoup moins, et après la consommation qui reste, qui sera essentiellement une consommation électrique, puisqu'on est en chauffage électrique et en pompe à chaleur pour l'eau chaude. Donc cette consommation qui reste, on va la produire par des panneaux solaires photovoltaïques qu'on met sur la toiture. Donc une toiture où on avait beaucoup de place, beaucoup d'espace disponible. Donc 300 mètres carrés de panneaux qui vont être posés sur cette résidence. L'utilisation de cette énergie, c'est d'abord les parties communes qui sont alimentées directement par les panneaux. Ensuite, une autoconsommation qui est proposée à nos locataires pour utiliser l'énergie produite dans les logements. Et puis en finale, l'énergie qui reste et qu'on n'a pas pu consommer à l'instant T, elle est revendue au réseau et elle nous permet d'avoir un peu de financement et de justement d'amortir le coût de l'installation photovoltaïque. Donc triple utilisation qui est testée sur ce dossier-là.
Le bailleur veut ensuite accélérer pour atteindre 2200 logements réhabilités chaque année. Aliad pourrait ainsi investir 1 milliard d'euros en 10 ans pour faire disparaître ses passoires thermiques.